Direct en jeu, la radio insolite. Je vais parler tout doucement pour être bien compris, bien entendu. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Alain.
Alors Jean-Pierre, je suis content de te découvrir, parce que c'est le cas de le dire, je n'avais pas le plaisir de te connaître, mais je te découvre avec tout ton talent, j'allais dire de dessinateur, de peintre. Et puis, oui. Il n'y a pas que peintre, parce que c'est vrai que quand on se demande qui tu es, on a l'habitude de dire que tu es en même temps peintre et scénographe français. Alors c'est original comme mélange.
Tu trouves que c'est original ? Je pense que c'est il y a une continuité. Mais déjà, le peintre est un travailleur extrêmement solitaire, des heures d'atelier.
Oui.
Mmh. Et le peintre travaille sur une surface plane. Mmh. Quant au scénographe, il travaille avec d'autres, avec une équipe. Il travaille dans le volume. Il est soumis à un texte ou à une musique ou à une chorégraphie. Donc c'est un travail d'équipe et je trouve que c'est très, très complémentaire de ma recherche picturale de tous les jours. Je suis très content de sortir de l'atelier, non pas que je le fuis, mais de travailler dans des conditions complètement différentes et surtout en équipe. Voilà.
Ah là, tu l'as très bien expliqué, là, il n'y a pas de souci. On fait une marche arrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce métier ?
De scénographe, tu veux dire ?
Non, de peintre pour commencer.
De peintre. Ben, écoute, c'était simple. Quand je révisais mon bac et que je m'ennuyais, je me suis mis à dessiner un portrait de Baudelaire que j'avais dans mon livre de littérature. Mmh. Et j'ai trouvé un grand plaisir et voir une ressemblance. Et là, je suis tombé dans un pot de peinture et je n'en suis jamais sorti. Voilà.
Carrément. Pour en aller carrément à faire l'école des Beaux-Arts de Lille.
Voilà.
Quand on dit l'école des Beaux-Arts, on a l'impression que là, on a affaire à vraiment c'est l'esthétisme au plus haut point.
Oui, écoute, il faut d'abord se former et puis traverser dans les premières années, traverser un peu l'histoire de l'art qui nous a précédés jusqu'à ce que on puisse trouver, découvrir en soi et autour de soi une peinture un peu plus singulière, un peu plus personnelle. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce qui t'a inspiré au départ ? C'était, tu parlais de Baudelaire, est-ce que c'était de faire des visages ? Est-ce que c'était des paysages, la nature ?
Mais on commence par reproduire le monde qui nous entoure.
Ouais.
C'est-à-dire, j'ai peint beaucoup de paysages, je suivais mes parents dans le nord, donc j'ai peint le long du canal de la Deule dans le nord, j'ai peint des bateaux, des péniches, en atelier des natures mortes, et puis quelques personnages. Voilà, c'est le paysage, l'objet et le corps. Et j'en suis toujours là, après être passé par une vingtaine d'années de peinture dite abstraite, puisque c'était la peinture de ma génération, quoi. Donc l'apprentissage se fait toujours de manière classique, enfin, ça me paraît indispensable. Le dessin, c'est reproduire ce qu'on a sous les yeux, quoi, de manière la plus précise. Et puis par la suite, quand on a ce dessin un peu dans la main, d'autres choses arrivent, une interprétation différente arrive au fur et à mesure. Mais ça c'est très lent, il faut quasiment une vie, quoi. Oui.
Tu exposes à la Galerie Univers chez Colette Collat, et puis dans ta présentation, oui. Il y a une chose que j'aime bien, c'est oui. Il est écrit, objectif, c'est un élément qui met en mouvement la peinture, sans prendre de dessus. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en mouvement la peinture ?
Redis la citation, ouais, exactement.
Jean-Pierre Renoux, il y a 15 ans, avec le sujet, élément qui met en mouvement la peinture, sans prendre le dessus.
Le sujet, oui. C'est une grande histoire. Je viens de dire que pendant une vingtaine d'années, j'étais dans l'abstraction et j'avais l'impression que tout avait été fait au XXe siècle, en tout cas dans la première partie du XXe siècle, et que le risque de l'abstraction, c'est une musique intérieure qui ne se renouvelle pas beaucoup, quoi. Et parallèlement, je dessinais, mais ce dessin n'entrait pas, enfin, des croquis, je continuais à dessiner de manière assez classique, et le dessin ne rentrait pas dans la peinture. Et ça me posait quand même un dilemme, une grande question paradoxale. Et pour éviter enfin, surtout pour me renouveler et pour enrichir, je suis allé chercher à nouveau le sujet à l'extérieur, c'est-à-dire des corps, c'est-à-dire des paysages, c'est-à-dire des objets. Et je les traite, je crois, aujourd'hui avec les outils d'abstraction, hein, que j'ai travaillé pendant longtemps et puis que nos grands maîtres du XXe siècle ont mis en place. Je cherche une manière de garder le sujet, mais sans qu'il prenne le dessus, parce que la peinture, c'est pas d'abord le sujet, c'est comment il est traité, comment il est fait. C'est vraiment l'interprétation de la chose. La peinture est une surface physique vibrante en elle-même, hein,
D'accord.
puisque on est allé jusqu'à l'abstraction, c'est-à-dire que la peinture existe même sans le sujet. C'est ce qu'ont démontré les abstraits. Et moi, je reprends le sujet pour me nourrir davantage, mais avec ces outils-là, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible.
À quel moment tu décides de passer de la peinture à la scénographie?
Écoute, c'est arrivé dans les années 80. Voilà. C'est un théâtre qui m'avait demandé de travailler pour une chorégraphie. J'ai commencé par la danse. Voilà. Bon, j'ai toujours, toute ma vie, même enfant, j'ai toujours bricolé avec mes mains. Donc j'ai un sens. Le manuel, la main est très très importante pour moi. Voilà. Et donc, dessiner, penser un volume, penser une réalisation, voire réaliser moi-même les choses, ça m'a toujours intéressé.
Je voudrais revenir sur quelque chose que tu viens de dire. Tu as parlé de la main. Est-ce que c'est quelque
Oui.
chose qui est inné ou est-ce quelque chose qu'on peut apprendre, ce type de choses? D'utilisation de la main pour réaliser.
Je vais te faire une réponse de Normand, c'est moitié-moitié. Je pense qu'il y a une prédisposition. C'est pas chacun a des talents différents, enfin des prédispositions, disons, sans
Exact.
parler de talents. Hein. Tu as des gens qui sont bien situés dans l'espace, qui sont manuels. Tu as des gens qui sont dès l'enfance plutôt intellectuels. Et voilà, moi j'avais besoin de la main pour réaliser des choses. Et après ça se cultive, hein. Tout se cultive. Ouais.
D'accord.
Je suis très admiratif de tous les métiers manuels, les métiers du bâtiment. Je regarde beaucoup comment ces gens-là travaillent. Si, c'est une forme, enfin, c'est de l'artisanat,
Ah,
mais
totalement, complètement, oui.
C'est d'une habileté absolument extraordinaire parce que ces gestes sont répétés quotidiennement. C'est très très beau. Ça devient très beau. Ouais.
Il y a une chose, c'est très juste que tu as dit, on a tous un talent, le truc est de savoir lequel,
Ouais.
mais on a tous quelque chose en nous.
Oui.
Moi, quand j'ai préparé ce rendez-vous qu'on a ensemble en ce moment, je me suis dit,
Oui.
mais comment est-ce qu'on fait pour un tableau? Quand je vais voir un tableau, je le regarde, le tableau. Quand je vais voir une pièce de théâtre, il m'arrive de regarder aussi toute la déco, mais
Oui.
ce n'est pas la déco qui est mise en valeur comme un tableau serait mis en valeur dans une expo.
Ah, exactement. Oui. Alors, c'est pas du tout situé au même endroit. Et d'ailleurs, je pense que la scénographie, tu le dis assez justement, là, ça transparaît dans ce que tu dis. Je crois que la scénographie doit avoir une part modeste dans le spectacle. Il y a parfois des scénographies qui sont tellement tapageuses, je vais dire, qu'elles prennent le devant de la scène. Hein, quand on demande à un scénographe de créer un décor, enfin une scénographie, l'écriture de la scène au sens étymologique, c'est pour accompagner. C'est un peu le paquet cadeau de la chose, mais c'est pas le cadeau. C'est le texte ou la chorégraphie ou la musique. Et c'est un accompagnement. Donc je pense qu'il faut un petit peu de retrait, quoi, dans la scénographie. Donc c'est ce que tu viens de dire, c'est pas la scénographie qu'on regarde en premier. Et je crois que c'est bien qu'on la regarde pas en premier. Elle participe à ça. Le cadeau, c'est le texte. Le texte, la musique, la danse. Voilà. Et l'emballage, nous, on fait une espèce d'emballage, mais ça a de l'importance, la manière dont les choses sont présentées. On crée une atmosphère, on crée un paysage quasiment, dans lequel évoluent les protagonistes.
Alors, tu as scénographié donc le spectacle qui va démarrer le 22 mars au théâtre de l'Épée de Bois, Cartoucherie à Paris, un théâtre musical, sur le spectacle qui s'appelle Comme s'il ne manquait rien. Et moi, j'ai trouvé une photo alors, qui est présente sur l'expo peinture que tu fais actuellement. C'est une amphore. Question toute bête, pourquoi une amphore?
L'enfant, c'est un objet mythique, hein.
Oui.
C'est donc un objet extrêmement classique, et je trouve ça extrêmement beau, quoi. J'aime beaucoup la céramique, et notamment l'amphore. En plus, symboliquement, c'est l'endroit, enfin, c'est le contenant pour la survie, c'est-à-dire qu'on y mettait l'huile qui permettait de faire toute cuisine, en tout cas autour de la Méditerranée, c'était très, très important. Donc c'est lié au vivant, voire à la survie, au nécessaire. Et puis ça a une forme, l'amphore a une forme complètement anthropomorphe. On utilise même en céramique les termes de bouche, de lèvres, de col, d'épaule, de ventre et de pied. Donc en peignant une amphore, on a le sentiment de se rapprocher du corps, quoi. Et puis il y a une symétrie qui est très très belle, puisque au tournage, c'est une succession de cercles, et cette symétrie est impressionnante. Et puis il y a le mystère de ce qu'il y a dans l'amphore. C'est un contenant. Donc le contenant parle toujours du contenu ou laisse le mystère du contenu. Ou de l'absence de contenu, parce que l'amphore peut être vide. Et c'est le propos de Comme s'il ne manquait rien, donc ce théâtre musical avec les textes des vieilles femmes et la mère de Yanis Ritsos. Et il y a un passage dans ce texte, un très beau passage sur la jarre. Et justement, comme s'il ne manquait rien, disent ces femmes, et la suite, c'est alors que tout manquait. Et pour moi, c'est l'éloge de la dignité. Ouais. On fait comme s'il ne manquait rien, alors que tout peut manquer, quoi. Et on reste debout comme la jarre est debout. Il y a une verticalité de la dignité dans la jarre que je relis à cette phrase des vieilles femmes et la mère. Donc ça a été très vite lié à Ritsos. Voilà. Blandine Janeste, qui a vu les premières jarres, m'a cité cette phrase et m'a fait faire ce rapport avec Ritsos. Et voilà, je l'écris même sur la toile, voilà. Comme s'il ne manquait rien. Alors que tout manquait, quand le tableau est grand, je donne les deux versions, les deux versants, pardon, de cette phrase.
Je suppose qu'il est plus intelligent de venir voir l'expo d'abord et le spectacle après, parce que ça permet d'enrichir encore plus le spectacle.
Bah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça n'a pas été exprès, c'est les choses se sont bien conjuguées. Et je travaille avec la Galerie Univers, et Colette Collat est très participante. Voilà, il y aura un renvoi artistique entre le théâtre de l'Épée de Bois et la Galerie Univers Colette Collat.
Tu m'as volé une question parce que j'allais te demander si c'était fait exprès d'avoir en même temps l'expo et enfin l'expo qui démarre et puis la pièce qui arrive. Donc c'était vraiment pas fait exprès.
Écoute, on a ajusté les dates, mais bon, c'était une expo qui devait se faire là, tu sais, dans une équipe. On fait une expo personnelle tous les ans, tous les 2 ans, et là c'était le moment d'en faire une. Donc on en parlait, on a juste, c'était prévu pour le printemps déjà, mais on a ajusté la date pour que ça coïncide vraiment, quoi. Voilà.
D'accord. Un autre tableau que j'ai découvert, c'est l'homme perché.
Penché.
Penché, pardon, l'homme penché.
Oui.
Bon.
L'homme penché, c'est à partir d'un tableau de Caravage qui s'appelle Le Christ à la colonne et qui est à Rouen. C'est un très très beau tableau où on a le buste du Christ qui est non pas au centre, mais sur le bord du tableau. Il est penché sur la gauche du tableau, comme s'il voulait se détourner de ce qui lui est arrivé. Et là, je viens de parler de la verticale, la verticalité abrupte de la jarre. Là, c'est sur l'oblique. Voilà. Je trouve intéressant de présenter cette suite, les deux suites côte à côte. L'un sur un objet vertical aux formes humaines, disons, et un corps penché vers l'extérieur du tableau, comme s'il voulait sortir du tableau.
D'accord.
J'aime beaucoup Caravage et j'ai essayé de lui rendre hommage en essayant de respecter la manière dont les proportions de ce Christ. Voilà. Et je l'ai appelé l'homme penché.
D'accord. Qui est
Pour
Madame de
moi,
Val...
ce n'est plus un Christ. Oui,
D'accord. Qui est
dis-moi.
Madame de Valpinson?
Alors là, c'est la troisième suite que je vais présenter. C'est à partir d'un tableau, là, c'est encore une référence, à partir d'un tableau d'Ingres, du début du
Ah oui,
19e.
d'accord.
C'est une baigneuse, c'est une femme de dos. Qui a le corps tourné d'un côté et la tête tournée de l'autre côté. Voilà. C'est un nu qui s'appelle donc la baigneuse de Valpinson. Moi, je l'ai appelée Madame de Valpinson parce que je trouvais ça un petit peu plus un peu espiègle et je ne voulais pas reprendre le titre d'Ingres. Voilà. Et ce personnage, cette femme, dans un corps assez massif comme ça se faisait à l'époque, mais avec une grande sensualité et un dessin très presque matissien, ça pourrait presque annoncer Matisse. Et ce qui m'a touché, c'est le fait qu'elle soit de dos et que le corps soit d'un côté et le visage de l'autre côté, ce qui fait que déjà en regardant bien Ingres, ça crée trois espaces, le corps représentant le présent, le dos représentant le présent, le corps tourné sur la gauche ouvre un espace qu'on pourrait dire le passé, et la tête, le visage de trois quarts profil, et sur la droite, et on pourrait imaginer le futur. Donc, à partir d'un corps, on peut parler du temps, quoi. Passé, présent, futur. Voilà. Mais c'est plus simple que ça après dans la réalisation, hein. Quand on le dit, ça fait toujours un peu pompeux,
L'expo se déroule donc à la galerie Univers Colette Colaf. C'est au 6 Cité de l'Ameublement à Paris. C'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h. Je suppose qu'on peut retrouver tout cela sur Internet.
Oui, il va falloir que je mette sur le site, sur mon site, mais il y a d'autres entrées à mon nom. C'est vrai, tu fais bien de me le rappeler, j'ai tendance à oublier un peu
Et
de
oui.
mettre sur le site.
Vous tapez Jean-Pierre Schneider sur le moteur de recherche et vous allez trouver pas mal de choses assez intéressantes. Vous découvrez ce personnage. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les jours à venir?
Je sais pas, le calme et la sérénité.
Ah, c'est plus important en ce moment, j'ai l'impression. Hein.
Je pense qu'on en a besoin avec ce qui se passe dans le monde autour de nous. On est quand même un petit peu affligé. Il faut continuer à travailler dans toutes les directions. Ça me paraît important.
Je voulais te remercier d'avoir nous avoir présenté ton talent, ton art, et puis d'avoir parlé un peu de la pièce de théâtre. Merci à toi, et puis à très bientôt.
Merci Alain.